Merci d'être venus et d'être nombreux. Nous allons commencer dès maintenant la séance. Nous avons trois heures devant nous, mais ça ne sera pas trop. Comme vous avez compris, c'est une séance un peu exceptionnelle. Et c'est pour ça que nous l'avons programmée pour trois heures. S'il faut faire un petit break, on le fera, mais enfin, je pense que c'est mieux si nous pouvons suivre, si nous pouvons le faire en suivi. Exceptionnel, parce qu'il s'agit de débattre avec Alain Touraine de son dernier livre, dont vous avez déjà sans doute connaissance, et donc vous en connaissez aussi l'importance. Nous avons organisé la séance de manière un peu différente avec Philippe. Nous consacrons donc trois heures et il y aura trois discussants ou discutants, comme vous voulez, qui interviendront à la suite d'Alain Touraine pour un commentaire qu'ils ont préparé et qui prendra une dizaine de minutes, ne débordez pas trop, pour qu'ensuite nous puissions avoir un débat qui nous reste du temps, parce que certainement parmi vous il y a de nombreuses personnes qui ont des commentaires, des questions à poser à propos de ce livre. Il m'en est arrivé même de Buenos Aires et d'autres lieux. Donc, on essaiera de les mettre dans le débat. Cette séance est enregistrée et filmée. Je crois qu'il faudra que vous signiez une acceptation. Quelques mots cependant avant de Philippe. Il y a des personnes qui n'ont pas pu être, qui ne pourront pas être, qui ne peuvent pas être là et qui se sont excusées. Michel Villarca est retenu par ses fonctions. Il organise un colloque important. François Dubé intervient à Nice, je crois, aujourd'hui. Il ne pouvait pas déplacer. Et Antimo Faro est retenu à Bologne. Voilà les trois personnes qui se sont manifestées. Philippe, tu as, je crois, quelques mots à dire.
Oui, très rapide, en donnant d'emblée la date du 20 décembre, nous nous retrouverons sur notre séminaire de centre, où nous prolongerons, je crois, cette discussion, et je ferai un point sur deux, trois éléments qui concernent le centre, mais pas aujourd'hui, puisque nous allons garder le temps. Je voudrais juste même accueillir deux chercheurs et une ingénieure qui se sont rattachés au CADIS statutairement, du CNRS, Edwige Rue d'Antoine, qui est là pour son premier séminaire CADIS, d'une certaine manière. Et évidemment, des séances vous seront ouvertes dès que vous serez un tout petit peu familiarisé avec ce petit fonctionnement. Et dès cette année, si vous le souhaitez, pour qu'on vous entende sur vos travaux, vos programmes de recherche. Un tout petit mot, juste peut-être, Edwige, pour que je ne parle pas seul.
Je fais plus de recherche au CNRS. Je finis un livre là sur bien défendre l'éthique de l'avocat pénaliste, et j'ai un programme de recherche autour du cancer et sur l'annonce du cancer à des adolescents et des jeunes adultes.
Et je pense avec ce programme aussi un post-doctorant, Eric
Mondel. Deux
post-doctorants. Nous rejoindrons en fin de séminaire le réponse. Voilà, qui sont engagés dans des recherches. Dominique Théré, chercheur au CNRS, qui s'est rattaché au CADIS.
Alors, moi, je travaillais sur la rationalité et les rapports de la rationalité et de l'irrationnel dans un champ théorique. J'ai travaillé ensuite dans le domaine pratique sur le sujet des rationalités normatives à l'œuvre dans la société, le droit et l'économie. Et actuellement, je plusieurs livres, à plusieurs travaux, dont un qui s'inscrit, me semble-t-il, dans la mouvance de ce que c'est le CADIS sur les rapports des sciences morales et politiques avec l'économie.
Rapport des sciences morales et politiques avec l'économie. On devrait aborder ce sujet assez vite, peut-être dans la journée. Françoise Commercy, ingénieure, gestionnaire, qui nous rejoint aussi, et si vous le voulez bien, on prendra un temps de présentation effectivement plus long, avec des questions d'organisation du laboratoire qui, vous le voyez, va évidemment bénéficier de tous ces apports. Jean Clame, chercheur CNRS, fait partie des excusés, il m'a envoyé un mot dans la soirée, donc est également chercheur CNRS, fait une conférence à Berlin aujourd'hui, qui est sur Internet d'ailleurs, il m'a donné le lien, on le fera suivre sur le site. Très rapidement, quelques publications, pour tout simplement ne pas les rater, et quelques flyers. Un dernier numéro de Sociaux, avec, j'ouvre un article de Geoffrey Players, qui va parler ce matin sur la résonance des mouvements des places. Un article avec Farhad Khosrokhavar, Alain Touraine, Manuel Castells, dans un débat sur l'unité des grandes sociétés contemporaines. Et je crois que j'ai vu Régis Piret, à la fois dans la revue sur qu'est-ce que la précarité, dont on sait l'importance qu'il accorde à ce thème. Je fais circuler, vous me rendez, c'est un numéro unique, un livre en espagnol, Yvon.
Il y a un article d'Yvon Le Bot aussi.
Il y a un article d'Yvon Le Bot, excuse-moi, j'étais sur ton.
Alors,
Et d'autres.
Articles.
Oui, voilà.
La mondialisation.
Très bien. Un livre d'Yvon Le Bot qu'on avait vu en français, je crois, qui est sorti en espagnol et qui connaît un grand succès, au moins au Mexique. Je pense que vous étiez à la sortie de ce livre il y a quelques jours. Je le fais passer, pareil. Voilà. Beaucoup parlent et lisent espagnol. Et je voulais dire ici, Adèle Bacarin, qui est mon invitée, qui est chargée de recherche à Évry, a aidé à la publication d'une revue que vous découvrez sur Alain Touraine et le dernier livre d'Alain Touraine, avec des photos et des gravures absolument magnifiques sur une cinquantaine de pages. J'ai moi-même ramené l'exemplaire la semaine dernière du Kurdistan irakien. D'autres exemplaires sont en cours d'acheminement, comme on dit chez Amazon. Mais je vous conseille de regarder, mais c'est en kurde. Quelques informations sur le Collège mondial. L'ordre du Chili est à l'arrivée avec, là aussi, la présence du CADIS. Je vous fais passer des publications, en particulier celle de Pénélope Larzillière sur la Jordanie contestataire, sur les militants islamistes, nationalistes et communistes. Je ne sais pas si Pénélope est là, mais on l'entendra peut-être au CADIS. Faites passer de l'autre côté. Et un important colloque, si vous voulez bien, là aussi, que j'ouvrirai, je crois, jeudi à 8h30, avec Alexandra Poli et d'autres du CADIS, sur les enjeux et débats autour de la reconnaissance de l'islamophobie en Europe et aux États-Unis. Pendant 2 jours, Berkeley, enfin, toutes les institutions. Alexandra, je ne te donne pas la parole. Un petit mot peut-être quand même.
Non,
si, on est content de te voir en plus.
C'est un colloque qui est le fruit d'une assez longue collaboration avec l'Université de Berkeley, qui se voit en premier lieu à Yvon, qui m'a présenté il y a quelques années Ramon Bonsogel, avec qui on a eu envie de réfléchir à cette question de l'islamophobie et donc mettre en regard la notion d'islamophobie avec celle de racisme, de discrimination. Donc voilà, vous êtes tous bien sûr invités à ces 2 journées et qui en fait sont la première étape d'une série de rencontres qu'il y aura sur ces questions. Voilà.
Encore 2 livres, un de Michel Viviorca sur le Front National, dont on a beaucoup parlé, et un autre que j'ai oublié dans mon bureau, de Michel Viviorca sur le numérique. Un livre un peu court, mais efficace. Ce qui me donne l'occasion, nous reverrons tout ça, ce qui me donne l'occasion de vous donner 2 éléments de calendrier. Nous recevrons dans ce séminaire François Dubé le 17 janvier, qui nous présentera les travaux en cours et programmes de recherche et projets. Nous discuterons. Michel Viviorca, la séance suivante, qui nous parlera un peu du numérique, mais qui reviendra aussi beaucoup sur les thèmes du Front National, et probablement aussi par extension des thèmes qu'on travaille ici, la discrimination, l'immigration. Voilà, Michel fera une séance. Et ensuite, nous avons Michel Agier. Le 7 mars, c'est confirmé. Voilà, je l'ai... Voilà. Et nous tombons après, je crois, au 20 mars. Donc, on verra le calendrier après. On a d'autres invitations en cours, des chercheurs qui doivent s'exprimer. Mais il y a au moins ce calendrier, si vous voulez bien, qui très directement, avec le 20 décembre, la prochaine séance, très directement va prolonger notre discussion, en tout cas notre engagement dans cette discussion. Je redonne la parole à Yvon, qui est le vrai maître de cérémonie. Et à Antoine. Je remercie.
Notre procès, je transmets cette parole à Alain Touraine pour au moins une heure et quart, dans laquelle il va nous parler des thèmes qui sont dans ce livre et que vous avez la parole.
Merci beaucoup. Bon. Je vous remercie de me donner cette occasion de m'exprimer dans ce centre auquel j'appartiens depuis sa création et d'écouter aussi et surtout trois chercheurs dont les idées m'intéressent beaucoup et dont les commentaires certainement vont m'amener à, j'en suis persuadé, je le souhaite, à modifier ma pensée ou mon mode d'expression dans des domaines importants. Je voudrais, puisque Philippe Bataille a évoqué ces problèmes simplement d'un mot, dire que cette année, après une période difficile, plutôt au fond une période de changement de génération, je pense que les choses se présentent bien pour le CADIS, comme il vient de le dire, avec l'arrivée de nouveaux chercheurs, avec l'avancement du travail d'un certain nombre d'autres, etc. Et que rien ne peut me faire plus de plaisir et me donner plus de confiance que de voir que ce centre va reprendre un rôle extrêmement actif et de plus en plus diversifié et en particulier mondialisé dans le domaine qui est le nôtre. Je voudrais, non pas avant de commencer, mais je voudrais, en commençant, donner deux ou trois indications concernant des notions dont il sera amplement question. Au cours de l'exposé, j'aurai, je pense, l'occasion de revenir sur tel ou tel, mais je voulais indiquer au moins un point, appelons ça d'analyse théorique élémentaire, auquel j'attache la plus grande importance. Je veux dire qu'il est bon d'avoir dans la tête pour comprendre ce qui suivra. Les sociétés dont nous nous occupons, je dis nous, les sciences sociales, les sociétés que j'appellerais volontiers historiques, c'est-à-dire qui ont une capacité importante de se transformer elles-mêmes. Les sociétés qui n'ont pas cette volonté ou cette capacité, les deux à la fois, doivent être étudiées d'une toute autre manière, et c'est ce qu'on appelle par convention de langage, l'anthropologie. Dans notre cas, à nous, qu'on s'appelle historien, sociologue, économiste, politologue, peu importe, je pense qu'il faut avoir en tête une idée élémentaire. Mais il faut l'avoir. On peut la refuser, naturellement. Mais il faut la faire passer par le crible du jugement d'abord. Une société, ce qu'on appelle une société, ça comporte deux éléments fondamentaux et un qui les met en relation. Le premier élément, il n'y a pas de société sans une définition des ressources dont dispose cette société. J'entends par ressources tout ce qui est objet d'intervention de cette société sur elle-même, qu'il s'agisse de matières premières ou qu'il s'agisse, comme on dit d'un terme plutôt choquant, des ressources humaines ou des techniques ou des formes d'organisation, tout ce que l'on voudra. Donc là-dessus, c'est banal de dire ça. Je ne le dis que parce que je veux insister sur l'autre aspect des choses, évidemment, qui est qu'il n'y a pas de société dont les ressources ne soient pas associées à ce que on peut appeler une interprétation d'elle-même. Une société se définit par ce qu'elle fait, mais aussi par la manière dont elle pense et agit sur ses propres ressources, sur elle-même. Ce qui veut dire qu'il y a dans toute société à la fois un ensemble que j'appellerais tout bêtement de pratiques et la construction d'un sens qui ne se présente pas forcément dans les mêmes termes que le registre des pratiques. Mais il y a, et il faut qu'il y ait, évidemment, un lien essentiel. Et je fais, et c'est à cela que se bornera mon introduction, il faut qu'il y ait un principe de construction des interprétations à partir des pratiques. Toute société qui a la volonté et la capacité d'agir sur elle-même, de se transformer elle-même, de se produire et de se transformer elle-même, a une certaine représentation de sa propre créativité, de sa propre capacité d'intervention sur elle-même. Quand on dit sur elle-même, ça comporte évidemment sur son environnement, mais j'ai parlé de ressources. Disons de manière peut-être trop élémentaire, mais ça me suffit comme ça, que lorsqu'une société a des ressources faibles, une capacité faible d'agir sur elle-même, elle se représente sa propre créativité d'une manière extérieure à ses pratiques. Le principe de créativité, le principe de création est extérieur. Ça peut être, c'est un cas plus que fréquent, que l'on parle d'un monde divin, de force divine, ou de force politique, ou d'une essence spirituelle, ou d'un destin, ou d'un avenir, ou d'un progrès, ou de tout ce que l'on voudra. Plus une société a une forte capacité d'action sur elle-même, et là, je me permets de tracer une frontière indispensable. Plus une société a une forte capacité d'agir sur elle-même, et plus elle a une forte conscience directe de sa propre créativité. Je veux dire que lorsque les sociétés s'éloignent du modèle que je pourrais appeler le modèle du sacré, c'est-à-dire l'impact sur les pratiques d'un monde extérieur et le monde de la création, quel qu'il soit, politique, religieux, historique, etc., plus cette société, au lieu de se définir selon les normes de la sécularisation, ce qui est quand même la théorie la plus répandue dans les sciences sociales et qui a les répondants les plus illustres, au lieu que ce soit la sécularisation, que ce soit l'action utilitaire, et par conséquent que ce soit l'analyse structuro-fonctionnaliste qui corresponde le mieux à cette situation-là, nous avons une société qui a une très forte référence, qui peut devenir peut-être extrême, qui peut occuper presque tout l'écran de ses déclarations et de ses activités. Et c'est cela que je vais essayer de faire. Je vais essayer de dire comment, selon de premières réflexions, je pense que se comporte, comment crée un nouveau système d'interprétation de soi, de ses pratiques, une société qui est au-delà des sociétés industrielles. J'y reviendrai, mais pour éviter tout malentendu, s'il m'arrive de parler de au-delà des sociétés industrielles, ce n'est pas pour dire des sociétés post-industrielles, c'est un point secondaire, mais qui a une certaine importance. Je crois que l'expression société post-industrielle est très utile, mais pas pour dire exactement ce que ont voulu dire ceux qui ont créé cette expression il y a quelque chose comme une quarantaine d'années. J'entends par société post-industrielle, au fond, non pas exactement, mais ce qui est dit le mieux de nos jours par Manuel Castells quand il parle de société de communication et d'information, parce que ça déborde vraiment le domaine industriel d'une manière assez clairement définie pour donner la priorité au champ de la communication. Mais il faut ajouter d'autres champs, j'y reviendrai à un moment tout à l'heure. J'introduis seulement le mot qui désigne un autre champ qui a peut-être encore plus d'importance pour comprendre le changement que le champ de la communication, qui est le champ des représentations, où nous trouvons ici des mots un peu dangereux, du genre constructiviste que je n'adopte pas, mais qui indique bien que nous sommes dans des sociétés qui construisent pas seulement des objets, pas seulement des techniques, mais qui construisent des représentations, donc des images de soi, donc même des orientations normatives, des conduites et des formes d'organisation et des institutions. Voilà, je viens de vous définir l'objet du travail dont je vais vous parler, qui est en fait en cours depuis presque une vingtaine d'années, mais qui a commencé à prendre forme d'ailleurs quand je travaillais avec Farhad Khosrokavar et que nous avons commencé ensemble à parler du sujet, ce qui est le mot un peu étendard qui sera brandi le moins souvent possible, mais c'est-à-dire tout le temps. Bien. Je voudrais d'abord, parce que c'est indispensable, dire quel est le point de départ et ce qu'il a de tout à fait particulier. Je le ferai très très vite parce que ce sont des choses que vous connaissez tous très bien, mais qui doivent être rappelées. Ce dont vous avez l'habitude, surtout dans ce centre, c'est d'entendre parler de types sociétaux qui se définissent par leur mode, en effet, d'interprétation de leurs pratiques, c'est-à-dire des sociétés qui se disent et se pensent et agissent en termes religieux. Ça ne veut pas dire qu'elles sont religieuses, c'est-à-dire qu'elles se pensent et qu'elles agissent en termes religieux. Et puis, sans m'étendre là-dessus, qui nous éloignerait de notre propos actuel, nous sommes tous marqués par le grand bouleversement occidental, mais qui a des origines beaucoup plus lointaines, mais qui a représenté l'entrée dans ce que, dans les livres d'histoire, dans les manuels d'histoire, on appelle les temps modernes, c'est-à-dire quand la société rompt son lien nourricier avec le monde religieux ou le monde du divin qui se projette sur le monde social en le sacralisant, et où on remplace, vous le savez tous, je m'excuse de dire des banalités, mais c'est ce qu'il y a de plus difficile à arriver à faire, il faut le faire, le remplace, en tout cas dans le monde dont nous partons, le monde occidental qui décolle à ce moment-là des autres parties du monde, au moins provisoirement ou en partie, qui est remplacé par le politique. Et c'est le grand événement intellectuel qui se produit en Europe, probablement avant tout en Italie et dans les Pays-Bas, et qui ensuite prend toute sa force en Angleterre, et ensuite va atteindre, si je peux dire, son sommet de formulation intellectuelle dans les jeunes États-Unis et surtout en France. L'habitude est de donner à Machiavel le rôle du grand initiateur. D'autres défendent d'autres idées ou défendent, ont d'autres candidats au génie. Je voyais la seule revue que je lis avec plaisir dans la France d'aujourd'hui, qui est Books, un compte-rendu d'un livre, je crois, italien, pour dire c'est pas Machiavel qui a tout fait, c'est Jean Bodin. Vous pouvez dire aussi que c'est Thomas More, enfin, peu importe. Toujours est-il que ce que vous savez tous très bien, c'est quand même très étonnant que pendant 200 ou 300 ans, les sociétés se sont pensées, en termes politiques. Et ça va, vous pouvez voir en ce moment et lire un petit texte que je ne connaissais pas évidemment, qui est intéressant, qui est les notes de cours sur le cours de Durkheim sur Hobbes, note prise par Marcel Mauss et qui existe en petit fascicule publié par l'école d'études, je crois. Alors Hobbes, alors Locke, Rousseau, d'une certaine manière qui ne m'intéresse pas ici, Kant, et finalement, disons, Tocqueville, pour prendre un certain nombre d'auteurs qui forment un ensemble que nous pouvons appeler, au fond, et ce sera un hommage aux nouveaux venus ici, ça s'est appelé, ce qu'on appelle sociologie aujourd'hui, ça s'appelait philosophie du droit, ou philosophie politique. Et c'était, en effet, le moment où les sociétés se pensaient en termes politiques et par conséquent aussi juridiques. Et ceci a occupé la plus grande partie des temps modernes, jusqu'au moment où il y a eu une explosion extraordinaire qu'on a appelée à tort, mais peu importe, révolution industrielle, qui s'est produite essentiellement en Angleterre et secondairement en Écosse et très rapidement en Belgique, et ensuite c'était pas encore la Belgique à ce moment-là, puis dans des parties de la France, du monde rhénan, etc. Il s'est produit, comme le disait Forastier dans ses fameuses courbes, un moment où la productivité du travail, qui était restée comme ça, relativement stable, pendant très très longtemps, tout d'un coup décolle. Même si nous savons bien aujourd'hui que le 19e siècle, comme l'a dit dans un excellent article du Monde tout récemment le président de l'école des hautes études, nous savons que la révolution industrielle du 19e siècle s'est faite avec un taux de croissance très faible, de l'ordre de 1% par an, et donc ça n'a pas eu, mais comparé à ce qu'il y avait avant et par l'accumulation des chiffres, cela a entraîné un bouleversement, et là-dessus Forassier avait tout à fait raison de montrer cette rupture absolument formidable. Le résultat de cette rupture, et c'est ça le point de départ de notre raisonnement à tous, le point de départ de cette rupture, c'est de faire que ces sociétés industrielles qui se forment, surtout en Europe, mais presque en Europe occidentale, mais très rapidement aussi aux États-Unis et au Japon, ces sociétés acquièrent une telle capacité d'auto-transformation, marquée par des crises d'une extrême profondeur, des ruptures sociales, des ruptures politiques, que le système de représentation de ces sociétés cesse d'être politique et il devient, devinez quoi ? Il devient social. Pour la première fois, apparaissent des sociétés qui se pensent en termes sociaux. Cela se voit dans toutes les pratiques, et dans les pratiques intellectuelles, ça porte un nom. Cette interprétation sociale du social, c'est ce qu'on appelle la sociologie. Et comme l'a dit le créateur de la sociologie, Émile Durkheim, n'expliquer le social que par le social. Et la notion de société apparaît non seulement comme un ensemble de pratiques, mais comme un principe d'interprétation des pratiques. C'est pourquoi Durkheim, avec une force de pensée extrême,
insiste sur le côté « il y a plus dans le tout que dans les parties, il y a l'idée d'intégration ». Vous pouvez dire « fonctionnalité » en prenant un langage déjà plus parsonien, mais c'est le même langage. La sociologie classique a triomphé pendant la période qui va de Durkheim et de son école à Parsons et à son école. Et ça se termine, comme chacun d'entre vous le sait, pour des raisons qu'on peut appeler historiques plutôt qu'intellectuelles, ça se termine avec la guerre américaine au Vietnam, où s'écroule cette pensée dans des conditions dramatiques, historiquement, intellectuellement, et qui touchent le monde entier. Nous voici donc dans la situation dans laquelle nous avons vécu depuis pas très longtemps, mais depuis 150 ou 200 ans, où l'homme est identifié à son travail, c'est l'homo faber. C'est l'idée que il n'y a pas de limite à la capacité humaine d'auto-transformation. La société est ce que la société se fait être. Ce sont quand même des choses extraordinaires. Cette société industrielle triomphe petit à petit, non pas partout, mais dans des lieux, des régions du monde très diverses, et en ayant partout les mêmes caractéristiques. C'est vraiment un type sociétal réel. Nous avons passé en général l'essentiel de notre vie qui commence ou qui s'achève selon ceux qu'on considère à étudier ce type de société. Et puis, je vais durcir un peu le ton, parce qu'au fond, nous avons pris maintenant suffisamment de recul, ce que je viens de dire s'applique essentiellement au XIXe siècle. Le XIXe siècle qui se termine évidemment en 1914, ou si vous préférez, en 1917. Mais il vaut mieux dire en 1914. Car, et là je dois aller vite, je m'excuse, je suis beaucoup plus lent que je ne voudrais, mais je peux pas aller beaucoup plus vite. Je vais déjà vraiment à toute vitesse. Nous assistons, je dirais, que le XXe siècle peut et doit être compris comme la destruction des sociétés industrielles. Ça commence, je vais donner quatre aspects, je vais mentionner quatre aspects fondamentaux de cette destruction. Mais je pourrais passer des années à énoncer des aspects de ce phénomène majeur qui a occupé toute notre vie jusqu'à présent. Premièrement, comme tout le monde l'a toujours remarqué, quand un sociologue dit société, ça veut pratiquement toujours dire une société nationale. Il faut naturellement faire tout de suite la remarque qui s'impose, que contrairement à ce qu'on dit trop souvent, la modernisation des pays européens ne s'est pas faite dans la majeure partie des cas à travers des États-nations. Il n'y a vraiment eu qu'un seul État purement nationale, ça a été la France. J'ai pas besoin de vous dire que le pays majeur pendant le 19e siècle, c'est évidemment la Grande-Bretagne, mais la Grande-Bretagne s'appelle aussi l'Angleterre, elle s'appelle aussi le Royaume-Uni, elle peut s'appeler aussi le Commonwealth, l'Empire britannique, etc. C'est-à-dire que c'est déjà plus complexe. Et je dois ajouter naturellement un troisième exemple d'État national, mais qui est quand même, qui pèse quand même moins lourd sur la modernité que les deux autres, c'est le cas suédois. C'est un État national qui s'est constitué, mais beaucoup plus tardivement, au XVIIe siècle, mais avec toutes les caractéristiques de l'État national. Et tout ça a été mis en forme, comme vous l'avez appris au lycée, ou même peut-être au collège, je ne sais pas. Tout ça se traduit par ce qu'on appelle le système westphalien. Les traités de Westphalie de 1648, qui, sous la forme que vous connaissez tous, c'est-à-dire cuius regio, cuius religio, c'est-à-dire que la religion se soumet aux politiques, chacun à la religion du prince de son État, catholique ou protestant. C'était la solution donnée aux guerres de religion qui avaient mis à feu et à sang l'Europe pendant un siècle. Ce système des... Alors, ce qui naturellement a été beaucoup plus fréquent que les États nationaux, c'est la formation des nations à partir des villes. Et même quelquefois, dans certains cas, à partir des universités. Il y a des cas qui sont connus. Certains ici connaissent bien le cas de Liège, d'autres connaissent bien le cas de Delft, et on peut en trouver d'autres. Mais les villes, c'est évidemment la grande réalité européenne, dominée par, d'un côté, le monde italien et surtout d'Italie du Nord, et deuxièmement par ce qu'on peut appeler les Pays-Bas et même peut-être un peu plus largement l'Empire de Charles Quint. Mais toujours est-il que on est passé de cette définition politique aux sociétés industrielles. Ça s'est fait dans ce cadre-là, dans cette continuité-là, ça dure jusqu'à 1914, 1914-1918, puisque nous sommes en période d'anniversaire, de centenaire. C'est le suicide, le mot n'est pas bon, c'est l'autodestruction des États nationaux européens, à travers cette guerre qui détruit les empires, qui sont plus fragiles, mais qui épuise les États nationaux et qui entraîne l'ensemble de l'Europe à partir de la grande inflation de 1923 en Allemagne, 1929 la crise économique mondiale, 1933 l'arrivée de Hitler au pouvoir, puis les invasions successives et le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale en 1939. Après 1918-1920, la période des traités, on peut dire que l'Europe de la modernité, l'Europe des nations, quelquefois encore des empires, mais ça, c'était le grand mouvement, la victoire des nations sur les empires qui avait commencé en 1830 et qui avait éclaté en 1848, et le printemps des peuples et tous ces mots qui signifiaient beaucoup. Tout ça, c'est fini par conséquent avant même que la société industrielle ne s'écroule pour d'autres raisons. L'expression matérielle, c'est-à-dire l'État national, s'écroule de par la guerre, la première guerre, qui n'est pas vraiment mondiale, mais qui est en tout cas, au sens le plus large du terme, européenne, celle qu'on a appelée à juste titre la Grande Guerre. Deuxième aspect, et là je dois quand même accélérer un peu, deuxième aspect, celui auquel j'ai donné tellement d'importance que j'ai ouvert mon livre sur ce phénomène-là, qui est en effet d'une importance majeure, c'est la destruction du capitalisme industriel. Notre modernisation en Europe, dans le monde occidental et dans l'ensemble du monde, de par la colonisation et les zones d'influence, était faite en très grande partie avec un moteur central qui était le capitalisme industriel. Et déjà deux fois, en 1929 et en 2007, il s'est trouvé que le capitalisme industriel a été renversé durablement. Non pas par un socialisme industriel ou un communisme industriel, mais par un capitalisme non industriel, qui n'est pas un capitalisme financier, car il n'y a pas d'industrie sans financement, mais un capitalisme spéculatif. En 2007-2008, hier, aujourd'hui encore, les capitaux ont été employés sans fonction économique, c'est-à-dire pour autre chose que l'investissement et le crédit, pour la majeure partie d'entre eux. Pour ne citer qu'un exemple que tout le monde a dans la tête, je vous rappelle que cette bricole sur une carte de géographie qu'on appelle les paradis fiscaux, ces bricoles de rien du tout, peut-être le plus grand c'est Jersey qui est près de chez nous, mais enfin les îles Vierges, les îles de je ne sais pas quoi, ça représente l'équivalent du produit national brut américain plus le produit national brut japonais, c'est-à-dire la première et la troisième puissance économique mondiale. C'est dire que ce n'est pas des bricoles. Et tous ceux qui connaissent l'Amérique latine savent qu'on ne peut pas aujourd'hui, comme je l'ai fait dans mon temps, écrire sur l'Amérique latine sans avoir au moins un énorme chapitre sur l'économie illégale, le trafic de drogue, le trafic d'armement, le trafic de tout ce que vous voudrez. C'est-à-dire que on est ici, et nous l'avons vu en 2007-2008, avec la fameuse crise qui a suivi beaucoup de crises, mais la crise dite des subprimes, qui éclate aux États-Unis, en Angleterre, et avec une force exceptionnelle en Espagne, parce que l'Espagne avait fait la folie, qui était sage en même temps, de mettre toutes ses ressources dans ce domaine de la construction avec des visées de tourisme, etc. Bref, écroulement, pour la première fois, du capitalisme industriel tel qu'il avait commencé, essentiellement en Italie, mais aussi à travers la transformation de l'argent espagnol en argent hollandais et finalement en argent anglais, non seulement à Londres, mais surtout à Manchester, Birmingham, Leeds, Sheffield et toute la patrie de la révolution industrielle. C'est-à-dire que, j'ajoute quand même, parce que c'est des choses très fondamentales, qu'on peut se demander ce qui se passe. Pour l'instant, ce que je dis, c'est que ce qui était le moteur devient aujourd'hui une fuite gigantesque, qui est le capitalisme financier à fonction spéculative. Heureusement, dans un certain nombre de pays, dans quelques pays au moins, on a trouvé le moyen, non pas de remplacer le capitalisme industriel, mais sur les ruines, si je puis dire, du capitalisme industriel, j'exagère un peu, mais sur les ruines du capitalisme industriel, de trouver un autre moteur. Et ça, vous le savez bien, parce qu'on le répète du matin au soir, et c'est capital, en effet, c'est la connaissance. Mais vous noterez aussi que la partie du monde qui avait inventé le capitalisme industriel n'a pas pris la tête du mouvement de la connaissance. C'est les États-Unis qui ont joué ce rôle et qui continuent à le jouer, les Japonais ayant rejoint les États-Unis d'une manière relativement rapide, et plus récemment, la Corée s'étant élevée au même niveau que le Japon et les États-Unis. L'Europe, y compris la Grande-Bretagne, y compris l'Allemagne, et a fortiori la France, l'Italie, l'Espagne et d'autres pays, ne joue pas de rôle moteur et se trouve donc essentiellement empêtré dans les ruines du capitalisme industriel, ce que nous appelons la crise, ou plus exactement, ce que j'ai appelé dans un petit livre antérieur la catastrophe, c'est-à-dire l'enchaînement des crises, qui de crise financière en crise monétaire, en crise de croissance, en crise politique, en crise sociale, peut nous mener nous-mêmes à la catastrophe qui reste, en ce qui concerne l'Europe, l'hypothèse la plus vraisemblable quant à son avenir. Nous souhaitons tous que ça ne se produise pas, mais nous n'avons pas encore d'argument majeur pour dire que ça ne sera pas ce qui se produira. Et puis, je vais là de plus en plus vite, mais rassurez-vous, plus je vais vite, plus il faut aller lentement en réalité, parce qu'on entre dans du terrain nouveau. Et puis, je voudrais insister sur la destruction analogue en importance à la destruction du capitalisme industriel, ou, pour employer des mots que vous entendez tous les jours, à la défaite de l'entreprise face au marché, ce qui est bien notre situation actuelle. Vous avez deux grandes catastrophes, deux grandes ruptures. La première, c'est que le grand mouvement social de la société industrielle, appelez-le le mouvement ouvrier sous toutes ses formes, devient le contraire de lui-même. Le mouvement ouvrier qui produit des choses extraordinairement positives, appelons-les d'un mot simple, la social-démocratie, le welfare state, Sozialmarktwirtschaft, l'État-providence, tout ce que vous voudrez. Le mouvement ouvrier devient le contraire de lui-même, devient le pouvoir léniniste, le pouvoir stalinien, le pouvoir maoïste, etc., etc. Et dans quelques pays européens, essentiellement la France, mais de manière importante aussi l'Italie, l'Espagne, quelques autres, le mouvement ouvrier est détruit, mis en esclavage, si je puis dire, utilisé, pas instrumentalisé par des partis communistes qui se définissent par, comme l'a bien dit, admirablement dit François Furet, par la réalité majeure du socialisme dans un seul pays, c'est-à-dire l'URSS. Donc voilà un deuxième grand retournement. Le capitalisme industriel se renverse en capitalisme spéculatif. Le mouvement ouvrier se renverse en pouvoir totalitaire léniniste. Et enfin, Autre dernier grand aspect, le troisième monde, le tiers monde, le monde des mouvements de décolonisation, le monde des mouvements de libération nationale, se renverse en des dictatures ou des tyrannies même de type nationaliste, autoritaire, plutôt que totalitaire, mais pour des raisons qui tiennent à la faiblesse des appareils d'État centraux. Tout ça s'est fait très vite, et tout ça, c'est notre vie, même pour ceux d'entre vous qui êtes les plus jeunes, c'est la vie que vous vivez depuis 20 ou 30 ans, avec des exceptions partielles, je veux dire la grande exception évidemment de l'Inde et dans l'ensemble du Commonwealth, mais quand même, pour l'essentiel et surtout dans la zone d'influence de la colonisation française, les Français ayant aussi bien raté leur décolonisation qu'ils avaient raté leur colonisation, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas gagné d'argent dedans, mais cette fois-ci, ils ont fait des morts en grande quantité et inutilement, puisqu'ils allaient tellement à contre-courant que tout en gagnant les guerres, ils perdaient leur colonie. Et par conséquent, nous voici arrivés à la fin du XXe siècle. Les États nationaux sont morts à Verdun. Le capitalisme industriel est remort, si je peux dire, en 2007-2008. Le mouvement ouvrier est mort en 1920, quand la Seconde Internationale a voté en majorité pour la Troisième Internationale, l'Internationale léniniste. Et enfin, le tiers-monde libérateur est devenu un ensemble de tyrannies ou dictatures qui même quelquefois ont été jusqu'à se donner un tour, un contenu ou une représentation de soi-même religieuse, en particulier évidemment dans le cas iranien, mais même dans des cas de régimes qui s'étaient créés comme laïcs, comme les régimes bassistes de Syrie, qui est ce que vous voyez aujourd'hui, et d'Irak. Voilà un panorama qu'on ne trace pas si souvent et qui est le résumé du XXe siècle, la décomposition, l'écroulement, la catastrophe de la société industrielle. Et c'est à partir de ça, et j'insiste, je ne vois pas d'autres points de départ possibles. Et en ce sens-là, ce que je vous dis en ce moment, ce que je viens de vous dire, c'est d'une certaine manière la partie la plus concrète, la plus décisive que je puisse vous dire, c'est-à-dire le point de départ de l'analyse. C'est de ça qu'il faut parler. Ce n'est pas est-ce qu'il y a une société hyper-industrielle. Je crois que oui, je crois absolument, je l'ai dit 10 fois, 100 fois plutôt qu'une, mais je pense que le raisonnement juste, fondamental, c'est le raisonnement, le XXe siècle, c'est la décomposition, c'est la catastrophe, au sens grec du mot, c'est la catastrophe de la société industrielle et par conséquent du mode de modernisation. Beaucoup d'entre vous connaissent ma manie d'opposer modernité et modernisation. La décomposition de la modernisation qui avait porté le plus de charges de modernité en elle. Ce qui me fait penser que je n'ai pas dit quelle définition je voulais donner de la modernité dans les raisonnements. Je m'excuse de ce retard, mais je le remplis en une seconde. La modernité se définit par une seule chose, qui est l'universalisme. Je ne crache pas sur la définition banale, classique, de la modernité, que j'adopterai dans sa forme la plus jolie, la forme que lui a donnée Baudelaire, c'est l'éternité dans l'instant. Et c'est dans les salons du Baudelaire, donc non pas poète mais critique d'art, et qui nous dit en effet, ce qui est une belle définition, qui était d'ailleurs présente un peu avant chez Théophile Gautier, qui n'a pas la même qualité littéraire, peut-être même dans certains textes de Balzac, mais qui en tout cas chez Baudelaire est parfaitement clair, qui est en effet l'éternité disparaît, l'universel disparaît. Non, il ne disparaît pas, mais il n'apparaît que dans l'immédiat, que dans l'événementiel, ce qui, entre parenthèses, fait douter de l'opposition brodélienne entre le structurel et l'événementiel. Bien. Le monde de la fin du XXe siècle, c'est cette quadruple chute que je viens de décrire, et c'est finalement, c'est plus que la cerise sur le gâteau, c'est la crise de la modernité elle-même, c'est le développement de toutes les pensées qui poussent les choses à l'extrême en disant « il n'y a pas d'universel, il n'y a pas de modernité ». Les gens qui parlent un peu trop vite disent « il n'y a pas une modernité, il y a des modernités ». Mais dire qu'il y a des modernités, c'est dire qu'il n'y a pas de modernité, puisque si on met ça au pluriel, encore faudrait-il donner une définition différente pour chacune d'entre elles. Et c'est bien en effet ce que ça veut dire, qu'il y a des modernisations, c'est ça que veulent dire les gens qui parlent ainsi, de manière un tout petit peu incorrecte, mais qui est suffisamment claire. Et voilà. Et donc maintenant, et je ne prendrai pas beaucoup de votre temps, parce que il suffirait au fond que je mette un point d'interrogation et que je dise « et maintenant », comme dit la chanson, est-ce que on est dans la catastrophe pure, voire même dans le reflux, la réapparition des interprétations anciennes, un retour aux politiques et surtout un retour aux religieux tel qu'on peut le voir dans un certain nombre de parties du monde, plus dans le monde musulman, mais aussi un tout petit peu dans le monde chrétien et sensiblement plus dans le monde bouddhiste, si on peut le considérer comme un monde religieux. Mais la question, c'est, évidemment, y a-t-il un au-delà de la société industrielle autre que la catastrophe ? Comme Marx disait « socialisme ou barbarie », j'ai envie de dire « quid ou barbarie ». La barbarie, on est dedans. Par rapport au XIXe siècle, on peut dire la chute est quasiment totale. Avec une exception intéressante, qui est l'Europe, qui n'est pas en catastrophe totale, qui a même connu ses plus belles décennies, peut-être même les plus belles décennies de l'histoire humaine pendant ces 20, 30, 40 ans, ça dépend des pays et de la manière dont on regarde les choses, que les Français, Fourassier, pour le citer à nouveau, ont appelé les 30 glorieuses, que les Italiens appelaient le miracle italien, et chacun y allait de sa définition, qui sont toujours valables d'une manière ou d'une autre. Et voilà, au fond, je pourrais vraiment, si je voulais maximiser l'effet de de recherche, l'effet d'inquiétude, le point d'interrogation, je pourrais m'arrêter là et dire, maintenant, il faut que vous trouviez, vous, parce que ça va mettre du temps, tout ça. Et moi, je pense que le 21e siècle, c'est le siècle qui ne fait que commencer. Enfin, le 20e siècle s'est quand même terminé en 1989. Il avait commencé en 1914, il termine en 1989, on est déjà presque en 2014. Et tout ce que je... Avant de vous dire deux, trois petites choses qui me semblent essentielles à dire, je voudrais laisser plutôt l'imagination courir un peu en avant. Et je dirais, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il se trouve que nous parlons ensemble, alors que la personnalité la plus respectée dans le monde entier vient de mourir. Peut-être est-ce que l'intensité du phénomène peut nous indiquer un peu de quel côté il faut chercher. Mandela, c'est pas un personnage, c'est pas un dirigeant économique, ce n'est pas un dirigeant politique, c'est évidemment, comme Gandhi avant lui, un dirigeant éthique, un dirigeant moral. La lutte contre l'apartheid, ça a une signification universelle, pas nationale, pas régionale ou continentale. Mais je reviens un peu en arrière. Ce 21e siècle, je vous ai dit, il commence en 1989. Et pourquoi est-ce qu'il commence en 1989 ? Parce que c'est l'année de deux événements majeurs. L'un de ces deux événements est représenté dans cette salle, c'est Tiananmen. Et l'autre, c'est la chute du mur de Berlin. C'est-à-dire, ce sont des mouvements anti-totalitaires. Ce sont des mouvements éthiques au sens de liberté, au sens universel du terme. Et je vois apparaître, et c'est ça, j'entre là dans la partie finale de mon exposé, ce phénomène qui a été décrit remarquablement, probablement par beaucoup d'auteurs, mais moi, j'ai été impressionné par deux auteurs français, mais ça n'a rien à voir de spécial avec la France, qui ont été très sensibles, qui ont été tellement sensibles au phénomène dont je vais parler, que je vais les mentionner, alors que l'un comme l'autre sont hostiles au genre de pensée que je vais développer moi à partir de ces deux auteurs qui se sont exprimés dans des termes très semblables. C'est François Furet et Marcel Gauchet. Ils ont dit tous les deux ceci, à un certain nombre d'années de distance. Enfin, pas tellement d'ailleurs, puisque Gauchet, c'est une série d'articles qui ont été republiés sous forme de livres sur l'autodestruction de la démocratie. C'est le phénomène droit de l'homme. Il y a encore quelques connards de ci, de là, qui se moquent du droit de l'hommisme et des choses comme ça. Les cons, il y en aura toujours, il ne faut pas s'en préoccuper trop. C'est un phénomène majeur que ce thème qui avait disparu avec la société industrielle réapparaît, qui avait disparu, disons, après 1848-1871, et surtout après 1917, évidemment. Ce thème réapparaît pas le thème de la liberté, non, le thème sous sa forme la plus antique, la plus primitive, la plus Bill of Rights, 1689, pourquoi pas même habeas corpus, mais aussi la déclaration d'indépendance américaine et la déclaration française des droits de l'homme et du citoyen, dont la date exacte est dans tous vos esprits, le 26 août 1789. Et voilà que ce vieux machin, ce vieux truc complètement sur lequel sont passés des légions de camions, de tanks, de discours, de tout ce qu'on voudra, voilà que ces droits de l'homme réapparaissent, disent Furet et peut-être plus vigoureusement encore Gauchet, qui tous les deux pensent que c'est une catastrophe, parce qu'ils pensent que ce retour à l'utopie, à l'illusion, à l'absolu, détruit la démocratie, que en sacrifiant tout aux fins dernières, aux fins ultimes, on casse la politique, on détruit, c'est l'idée de Gauchet, c'est l'idée de la pensée qui domine le monde actuel, car le monde actuel, je dois le dire, le monde des sciences de la pensée sociale est un monde qui aujourd'hui a une grande unité. Il est dominé par l'idée que ce niveau-là, ce niveau que j'appelle de l'historicité des mouvements sociaux, de l'interprétation, tout ça, ça a foutu le camp. Oui, certes, on n'est pas descendu à la sécularisation absolue, mais le sommet de tous les sommets, c'est le politique. Les communistes, les léninistes, tout ce qu'on voudra, avaient complètement liquidé le politique pour en faire un sous-produit de l'économique et du social, et toute la pensée du XXe siècle, c'est la vengeance du politique contre le social. Tout ce que je viens de vous dire sur un ton objectif a été dit par les grands esprits du XXe siècle qui ont trouvé leur maître, à tort ou à raison, mais je pense à raison en tant que leur maître, en Tocqueville, qui était complètement inconnu jusque-là. Et ces pensées sont redécouvertes, Furet à propos de la Révolution française, Raymond Aron qui développe le thème du politique et de l'autonomie du politique et même de la guerre, et je donnerait une importance intellectuelle peut-être encore plus grande à celui qui, à mon avis, a été le plus en avant dans cette redécouverte du politique. Je parle ici du cas français, c'est Claude Lefort. Mais aujourd'hui, fin du XXe siècle, le vainqueur, si vous voulez, c'est le politique, je dirais même c'est les juristes, je veux dire le vainqueur, toute catégorie dans les sciences sociales, c'est Rawls. Et finalement, le plus intéressant, c'est de voir le ralliement de Habermas à Rawls. Je dirais presque, mais c'est plus discutable, que je pense que on peut considérer l'autre des trois grands, si vous voulez, de cette fin du XXe siècle, Charles Taylor, comme étant aussi quelqu'un qui, à travers le prisme du multiculturalisme contrôlé, lui et ses élèves à la Kimlicka, etc., défendent cette idée-là, qu'il y a un triomphe absolu, il n'y a rien au-dessus du politique. Et moi, évidemment, et dans le cas français, où je dirais, j'ai cité les grands noms, d'avant, mais dans la France d'aujourd'hui, oui, je ne peux pas citer des noms qui ont exactement le même poids, mais j'ai cité Marcel Gauchet, et un peu derrière Marcel Gauchet, mais peu importe, je mettrai moi aussi dans cette même catégorie des gagnants, si vous voulez, Rosan Vallon. Parce que tout ça, c'est le politique qui gagne, mais on coupe la tête à l'historicité, on coupe la tête à ce qui est les mouvements sociaux, ce qui est au-dessus du politique, et ce à quoi... Pourquoi je rappelle ça? Parce que je ne veux pas me rallier à cette écrasante majorité de gens hautement respectables et créateurs, et que sur, je voudrais, c'est ça la question que je vous pose, que je me pose, que je nous pose à tous, qui nous est posée à tous, qu'on le veuille ou non. C'est la question de savoir, y a-t-il dans ce monde qui a eu la capacité de se détruire en tant que société industrielle sous toutes ses formes, y a-t-il quelque chose au-dessus de la politique qui n'est plus du tout le mouvement ouvrier, qui n'est plus le mouvement de libération nationale, les mouvements de libération nationale, qui n'est plus le mouvement, etc. Tout ce qu'on voudra, qui n'est plus le capitalisme industriel créateur. Y a-t-il quelque chose au-dessus du politique qui est de l'hypermodernité? Je ne perdrai pas mon temps à attaquer le postmodernisme, ça fait pas le poids. Et je préfère faire comme certains qui préfèrent des mots plus jolis, comme notre ami qui, ayant été postmoderniste, a trouvé que c'était quand même plus joli de dire que le monde actuel était liquide. Eh bien, je l'approuve. Mais le postmodernisme était par lui-même assez liquide. Et par conséquent, la question qui se pose, vraiment, si on me donne encore quelques minutes.
Vous les avez.
Bon.
Quelques minutes.
Qu'est-ce qui peut remplacer ce qui a été les grands enjeux, les grands acteurs? Quels sont les enjeux, les acteurs des sociétés qui viennent après, ces sociétés qui ne sont plus des sociétés sociales, qui sont des sociétés post-sociales, qui sont des sociétés d'une autre nature, je veux dire, et en quoi consiste cette nature, et en quoi consistent ces enjeux, et qui sont ces acteurs? Voilà. Quels sont les enjeux, qui sont les acteurs des sociétés qui maintenant, à travers la multiple catastrophe qui s'est produit, qui a occupé le XXe siècle, constitue le monde d'aujourd'hui, de demain, et peut-être d'après-demain, mais en tout cas du XXIe siècle. J'espère que la question que je pose est suffisamment claire. Elle a été aidée un peu par l'imagination des événements qui peuvent nous guider, les événements symboliques qui peuvent nous guider, mais enfin, j'espère que la formulation analytique, théorique est suffisamment claire pour nous indiquer de quel côté il faut aller. Je vais faire un demi-pas entre l'imagination et le raisonnement. J'imagine que je suis dans un lycée d'un pays quelconque, pas européen, mettons, en l'an 3000, et que je dois résumer en une phrase, deux phrases, ce qu'a été le XXe siècle dans le monde qui existait alors, je crois que le seul mot qui aura surnagé, ça ne sera pas la communication, ça ne sera pas les technologies nouvelles, l'enrichissement d'une partie du monde, l'appauvrissement d'une autre. Je pense quand même que le mot qui restera, même s'il a quelques inconvénients, c'est le mot de totalitarisme. C'est ce mot dont peu importe l'origine historique, comme vous le savez, c'est un mot italien, c'est un mot fasciste, c'est pas un mot nazi, c'est pas un mot stalinien, peu importe. Mais évidemment, Hannah Arendt, à qui Lanzmann a parfaitement raison de reprocher son livre stupide sur Eichmann, c'est quand même le nazisme, et puis c'est aussi tout le débat autour du totalitarisme en général, le nazisme, le stalinisme, etc. Total, c'est quand même ça l'idée. Totalement, dans la catastrophe absolue que je viens de décrire morceau par morceau, ça en arrachant comme une sorte de striptease historique. Et je dirais, ce qui reste, c'est l'idée du pouvoir total, c'est-à-dire qui pénètre aussi bien les institutions économiques et politiques que les formes d'organisation, de leadership, d'autorité, de commandement, que la vie individuelle, affective, sentimentale. Le pouvoir est partout, à tous les niveaux, il est vraiment total. Pas total seulement au sens de, on ne discute pas, allez, je vous tue, je vous mets dans un camp d'extermination ou de concentration ou une prison ou une carrière de déportation, ça. Mais vraiment, ça veut dire qu'il n'y a rien de social qui ne soit pas soumis au pouvoir total. C'est vraiment l'expression fondamentale. Tout ce que j'ai dit sur la fin du social, ça se réduit, ça se coagule dans un seul mot qui est totalitaire. Et c'est, au fond, la seule chose que je puisse dire, c'est que parce que c'est total, ça ne peut être dépassé que de manière totale, c'est-à-dire au-delà du social, dans quelque chose qui est aussi bien la personnalité que le groupe, que l'institution, que la société, que tout ça, et qui est la seule chose qui puisse résister au total, au totalitaire, c'est l'universel. C'est les droits de l'homme, comme ça, sur la table. Pas les droits politiques, pas les droits sociaux, pas les droits culturels. Oui, tout ça, mais tout ça en bloc, on jette tout sur la table pour arrêter la catastrophe totalitaire, ou qui se manifeste comme du sous-totalitaire, tout ce que vous voudrez. Vous êtes bien capable de faire le raisonnement pendant les deux ou trois heures qu'il nécessite. Et par conséquent, pour remplacer, pour mettre un mot en face du mot totalitaire, et je pourrais vraiment, honnêtement, en rester là, mais quand même, il me faut un peu plus qu'un mot, mais pas beaucoup plus, je dirais, pour jouer vraiment la partie directement, corps à corps, en face du totalitarisme, la subjectivation, le sujet, c'est-à-dire ce qu'il y a d'universel dans l'individu, le groupe, l'institution, tout ce qu'on voudra. Ce qu'il y a d'universel dans le social se jette sur la table directement, sans intermédiaire, sans champ d'application, sans être social, psychologique, culturel, politique, tout ce qu'on voudra, sans être moral, en étant tout droit éthique. Et ici, je donne, c'est la dernière fois, une définition. La plus belle définition, évidemment, ça restera celle de Hannah Arendt. L'espèce humaine est la seule espèce qui ait le droit d'avoir des droits. Et la mienne, qui est moins brillante, mais qui est les droits de l'homme, sont au-dessus de tout, y compris des lois. Les droits sont au-dessus des lois. Ce qui est la définition même de l'universel. Et par conséquent, au-delà, ce que je veux dire, et là vraiment je vous demande les deux dernières minutes, ou même une, c'est que cet universel, cette force de l'universel contre le total, comment l'obtient-on? Comment est-ce qu'on fait exploser la subjectivation? En écoutant à nouveau ce que je vous ai raconté sur la destruction de la société industrielle, c'est-à-dire en comprenant que se fondent les deux grands combats, le combat de la modernité contre l'antimodernité et le combat de la modernité contre les modernisateurs, c'est-à-dire contre ceux qui devraient être les instruments, qui sont les politiques essentiellement et surtout totalitaires ou autoritaires, etc. Et par conséquent, et c'est là ma réponse concrète, pas assez, à la question que je posais en commençant et la réponse que je donne en terminant, c'est la fusion au-delà du social détruit, entre le social, c'est-à-dire l'analytique, et le politique, c'est-à-dire le monde des modernisations, c'est la fusion d'un mouvement social total et d'un mouvement politique total dans un mouvement que nous appellerons peut-être plus simplement un esprit, mais ça revient au même, démocratique. La démocratie, c'est ma vengeance contre les gens du tout politique, la démocratie, concept politique, devient en même temps un mouvement social. Et c'est cela qu'indique Tiananmen, c'est cela qu'indique le mur de Berlin, c'est cela qu'a été Mandela ou que sont des tas de gens ici ou là, aux États-Unis, en Birmanie, etc. Et par conséquent, il n'y a pas de moyen de ne pas jouer le va-tout, c'est-à-dire le sujet. Tout de suite, d'emblée, on jette ces cartes sur la table. Et si on n'a pas le sujet tout, on ne peut pas résister à la catastrophe destructrice de la société industrielle qui a été la nature profonde du XXe siècle. Et le XXIe siècle va être à un prix probablement élevé, c'est-à-dire la perte de l'Europe, l'incapacité des Européens de jouer leur va-tout, parce qu'ils ont été trop civilisés, trop social-démocratiques, trop welfare state, trop etc. Et que par conséquent, ils n'ont pas tout à perdre, ils ont encore... Ils peuvent encore être... Peut-être ils peuvent encore survivre en étant réformistes. Évidemment, ce n'est pas le cas dans beaucoup de parties du monde, où il faut jouer tous ses atouts d'un seul coup, il faut jouer le sujet sur la table d'un seul coup, mais à cette différence près, parce que pour l'instant, je ne vois rien, je respecte beaucoup les indignados, je respecte beaucoup Occupy Wall Street, enfin tout ça, hein, quand même, ça ne fait pas le poids. Ça ne fait pas le poids. Comparé à ce qu'on attend de la Chine, comparé à ce qu'on attend du monde arabo-musulman, etc. Donc, et qui va venir, et qui vient, et qui est là. Et par conséquent, à ce détail près, mais qui nous importe beaucoup, on peut penser que l'histoire du XXIe siècle sera, après la chute de la démocratie et de l'hégémonie occidentale, ça va être la construction d'un mouvement global, mondial, de démocratisation. Et je termine, c'est ma dernière phrase, ce que nous, ici, dans notre métier, dans notre activité intellectuelle et dans notre partie du monde, ce que nous avons à faire, c'est au moins de contribuer sur le plan de la pensée, sur le plan analytique, de contribuer à la possibilité d'une telle renaissance. Merci. Thank you.